Le mois Market
avec Candy Crush.
Le mois Market, ça me rend toute guillerette. J'arrête pas de chanter sous la douche, là.
Continuez, Michel. Il y a 70% d'économie sur le lot de deux bains-douches Sanex avec la carte de fidélité jusqu'au 22 novembre.
De quoi faire un vrai récital.
Et c'est sur d'autres produits de marque chez Carrefour Market.
70% de remise fidélité avec le mois Market.
Bien joué, le mois Market.
Candy Crush. 2 x 500 ml, différentes variétés, modalités, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Remise créditée sur le compte fidélité.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'heure est à l'humour et à la détente au cœur de l'histoire à l'issue d'une semaine éprouvante pour tous. Je laisse à Franck le soin de vous présenter lui-même son invité aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Justement, mon invité et de ceux qu'on ne présente pas. Si je vous dis que ces chansons font partie du patrimoine français, qu'il manie l'argot comme personne et vient de rééditer une galerie de portraits de personnages historiques, vous aurez reconnu Pierre Perret. Bonjour Pierre Perret.
Bonjour, merci. Bonjour à tous. Je suis heureux de me retrouver là aujourd'hui particulièrement pour faire une émission avec le ton que vous venez d'évoquer, parce
et
que,
voilà.
Et à mon avis, il est nécessaire aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que là maintenant, l'humour va presque devenir un remède.
Un médicament.
Hein, oui, un médicament d'une certaine manière. Alors, pour nous mettre en jambes, je vous propose le portrait d'un homme qui maniait l'humour, mais aussi le vitriol, il faut le dire, un des grands caricaturistes, sans doute le plus grand, le saint patron des caricaturistes, c'est Honoré Daumier.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondrez à la question de Cyrielle sur l'origine du Beaujolais nouveau.
Et bien voilà une question bien de saison. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec un des esprits les plus originaux du 19e siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1878, la célèbre galerie Durand-Ruel à Paris propose au public, un public qui est très nombreux parce que c'est l'époque de l'exposition internationale de Paris, il propose une grande rétrospective de l'œuvre d'Honoré Daumier. Les amis de l'artiste se sont démenés pour rendre cet événement possible et dans les deux grandes salles d'exposition, on ne sait où donner de la tête. Ce qui s'affiche, ce qui s'illumine sous les yeux écarquillés des visiteurs, c'est l'œuvre de toute une vie. 94 tableaux, 139 dessins et aquarelles, 2 bas-reliefs, quelques bustes et j'ai envie de dire seulement une trentaine de lithographies. Ça peut surprendre parce qu'il est évident que ce sont les caricatures de Daumier dans les journaux qui l'ont rendu célèbre. Ces visages déformés, ces grands hommes portraiturés en charge, ces scénettes à l'effet bien senti, avec un sens du contraste, un sens du rythme, du mouvement. On en parlera tout à l'heure avec Pierre Perret parce que nous avons quelques exemples sous les yeux qui sont tout à fait éblouissants. Tout ça permet d'identifier, on peut le dire, Daumier au premier coup d'œil. Mais avec cette rétrospective, on veut aussi montrer un autre Daumier, un artiste foisonnant qui peut sans rougir tutoyer les plus grands peintres. Malheureusement, l'artiste lui-même n'a pas pu venir. Il aurait pu, parce qu'il est encore en vie. En 1878, il a 70 ans. Seulement, il est devenu presque aveugle. Il a subi toutes sortes de problèmes de santé depuis quelque temps. Il est convalescent. Bref, il n'assistera pas à l'hommage. Et disons-le, et ça c'est un peu triste, le public non plus n'est pas tellement au rendez-vous. Cette exposition, cette toute première rétrospective Daumier n'aura guère de succès. Et c'est bien dommage, car l'œuvre d'Honoré Daumier est l'une des plus fascinantes de son temps. L'artiste était né à Marseille. On a toujours l'image d'un Daumier parisien, évidemment, mais il est né à Marseille le 26 février 1808, sous l'Empire. Sa famille, c'est une famille assez modeste, mais une famille qui possède un trésor en quelque sorte. Et ce trésor, c'est la fibre artistique qui anime quasiment tous ses membres. Le père d'Honoré était vitrier encadreur, seulement cet homme-là a une passion pour les lettres et sa passion va l'emporter sur le reste. Ses poèmes sous le bras, il décide de partir tenter sa chance à Paris. Et c'est comme ça que la petite famille va débarquer dans la capitale. D'ailleurs, il ne manque pas d'un certain succès dans un premier temps, le père d'Honoré. On admire ce curieux poète provençal. On l'admire un temps. Vous savez comment sont les Parisiens. Ils s'amusent, ils regardent et puis ils rejettent, un petit peu comme le chat avec la souris. Oh, ça peut arriver, disons. La fortune n'est pas au rendez-vous. On comprend que le petit Honoré ait dû tout jeune se mettre au travail. À 13 ans, le gamin devient saute-ruisseau chez un huissier de justice, c'est-à-dire garçon à tout faire, chargé de commissions aux quatre coins de Paris. Puis il est placé comme commis dans une librairie. Ça, c'est bien parce que ça lui offre un poste d'observation extraordinaire. Il les voit, les bourgeois de Paris. Là, il les a sous les yeux. Il peut observer tous leurs travers, toutes leurs attitudes, etc. Bon, il n'empêche que tous ces petits boulots ne l'amusent pas tellement. Il sent en lui naître une toute autre vocation. Ce qu'il veut, lui, c'est dessiner. Alors, il en parle à ses parents, qui font grise mine. Mais le père, et vous l'avouerez, est bien mal placé pour interdire à son fils de faire ce que lui-même a fait, c'est-à-dire de tout plaquer, de tout quitter pour l'art. Et finalement, il va accepter qu'Honoré prenne des cours de dessin, il va même le faire entrer dans une académie de quartier. Alors attention, on est très loin de l'école des Beaux-Arts. Hein. Néanmoins, Honoré fait des progrès fulgurants. L'argent qui aura été son problème toute sa vie et depuis son enfance et sa jeunesse, l'argent ne tarde pas à manquer. Comme on s'en serait douté en 1825, il a 17 ans, Honoré est obligé de travailler, il devient apprenti chez un éditeur. Ça va lui permettre de se familiariser à la technique de la lithographie. Faut pas oublier, vous savez, cette lithographie, c'est ce procédé très en vogue à l'époque qui permet d'imprimer un dessin qui a été tracé sur une pierre avec des acides, etc. Bon, eh bien, la lithographie à l'époque est très très en vogue, les imprimeurs en font un grand usage et c'est ce qui va permettre à Daumier de se familiariser avec cette technique dans laquelle il se révèle doué, très doué même. Son talent néanmoins n'éclora qu'au moment de la révolution de juillet 1830, cette fameuse révolution des Trois Glorieuses qui voit le départ de Charles X et l'avènement d'un roi des Français, d'un roi bourgeois, d'un roi citoyen, Louis-Philippe. Le jeune homme se lance, il montre certaines de ses caricatures à un propriétaire de journal et le patron du journal est enthousiaste. Il lui dit « mais il faut publier ça, vous avez le geste, vous », lui dit-il. Et c'est vrai que le don d'observation de Daumier se double d'un coup de crayon, d'une précision, d'une efficacité extraordinaire, d'une cruauté du reste qui n'est pas moindre. Les caricatures de Daumier visent dans un premier temps le régime de Louis-Philippe, bien sûr. Les images volontairement insultantes se succédaient, nous dit Bruce Lawton, exécutées avec une habileté féroce. Le roi libéral à la tête en forme de poire était représenté dans une variété de poses scatologiques. Voilà une excellente rampe de lancement pour l'aspirant artiste, mais dans une France en pleine ébullition, tout ça va sans doute un peu trop loin au gré des tenants du régime. En février 1832, poursuit Lawton, Daumier fut poursuivi pour offense à la personne royale pour une lithographie intitulée Gargantua. Je l'ai d'ailleurs là, on l'a sous les yeux, hein, Pierre Perret, cette lithographie extraordinaire. Louis-Philippe y apparaît comme un géant assis sur son trône dominant la ville de Paris nourrie par une procession ininterrompue de meurt-la-faim, hissant des paniers de nourriture jusqu'à sa bouche, tandis que de son vaste postérieur, honneurs et prébendes s'abattent sous forme de papier hygiénique sur les politiciens massés devant le palais Bourbon. Ouh, ça va pas beaucoup plaire au régime. Ça plaît pas du tout. Le 31 août 1832, notre Honoré est jeté en prison à Sainte-Pélagie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Pierre Perret, de Daumier à Perret, l'histoire revisitée. Alors effectivement, on retrace grâce à vous, Franck, le parcours d'Honoré Daumier et en 1832, il éclabousse le régime.
Eh oui, il se comporte très mal. C'est dommage tout de même que les micros ne soient pas branchés pendant les publicités parce qu'on entendait Pierre Perret qui chantait tout, 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 vous saurez tout sur le zone. Ah, il y a deux secondes. Alors. Il est en prison, Honoré Daumier, et ça se passe plutôt bien pour lui, parce qu'il n'est pas détenu de droit commun, vous imaginez bien, il fait partie de cette espèce de faune de prisonniers politiques qui s'accumulent dans les prisons de la monarchie de Juillet. Voilà ce que nous dit Jean Adhémar. On y rencontrait des hommes de toutes nuances, des royalistes, des bonapartistes, des libéraux. Les différentes opinions s'exprimaient par les bonnets dont étaient coiffés les détenus, mais oui, vert pour les royalistes, rouge pour les républicains, ceux-ci très bruyants chantaient la Marseillaise, le chant du départ, le ça ira, etc. La détention est assez courte, elle est plutôt supportable pour Honoré, qui du reste va achever sa peine dans une maison de santé, et début 1833, il est libre. Il est très républicain, il est peut-être plus qu'avant d'entrer en prison. Il se remet au travail, et alors là, il se lâche, si je puis dire. Ce sont des caricatures d'une violence contre le régime. Il s'acharne surtout contre le roi, précise Jean Adhémar, le roi transformé en marchand de tabac, en gendarme, en montreur d'ours, en nourrice. Louis-Philippe ne se montrait nullement indigné de ces charges énormes. Il s'en amusait beaucoup. Il les exposait sur des fauteuils malgré le mécontentement de la reine et de Madame Adélaïde. Madame Adélaïde, c'est la sœur du roi Louis-Philippe. « Pourquoi pas sur le trône ?» lui disait sa sœur. Elle parle bien du trône politique, bien entendu. Outre la caricature, Honoré excelle dans le tragique. En 1834, il évoque un massacre connu, le massacre de la rue Transnonain, qui est un peu le symbole de la répression aveugle des forces de l'ordre. Ce dessin est en clair-obscur, il est très réaliste, il montre un ouvrier mort en chemise de nuit, couché sur le cadavre écrasé de son propre enfant. Et ça marque bien sûr les esprits. Le régime finit quand même par se fâcher. En 1835, les caricatures politiques sont tout simplement interdites. Il est temps peut-être qu'Honoré songe à se renouveler. Désormais, il se consacre surtout à des caricatures de la société et des mœurs de l'époque avec un talent extraordinaire. Toutes les scènes de genre, comme on les appelait autrefois, inspirent Honoré Daumier, à commencer bien entendu par ce qui relève de la justice. Ces gens de justice qui sont croqués entre 1845 et 1848 sont d'une efficacité extraordinaire. Là encore, l'humour, la cruauté, le dynamisme, il y a quelque chose d'inouï dans ces dessins. Et puis, ce sont des années très, très prolifiques évidemment pour Daumier. On peut dire que sa réputation est en train de s'installer. Baudelaire, Delacroix l'admire. Vous savez que Delacroix était au moins autant critique d'art qu'il n'était artiste, hein, bien entendu. Et comme le révèle Jean Adhémar, Ingres se cache de ses élèves pour aller voir les lithographies de Daumier aux vitrines des libraires. Il n'ose pas le dire, vous voyez, mais enfin ça l'amuse bien quand même. L'art que propose Daumier n'est pas un art statique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il est plein de mouvements, en vérité. Il y a quelque chose dans cet art de presque incontrôlable, d'une certaine manière, comme si la pulsion de l'artiste était la plus forte. Il va participer à un certain nombre de concours. Il faut vous dire que, évidemment, en 1848, c'est la Révolution, l'installation de la Deuxième République pour laquelle Daumier s'enthousiasme. Il participe à un concours pour représenter la République. Il exécute un martyr de Saint-Sébastien commandé par l'État. Il envoie ses œuvres au salon. Enfin bref, la roue a tourné et maintenant il est bien vu du régime. Il cherche, il expérimente, il progresse tout simplement. Il peine à préserver, et trop souvent il peine à persévérer, et c'est vrai que ça sera peut-être le mauvais côté de la personnalité de Daumier, c'est qu'il a tendance à se décourager. Il ne va pas toujours au bout de ses travaux et de ses entreprises. D'un autre côté, son travail pour les journaux, qui lui assure des revenus réguliers, semble lui inspirer une forme de lassitude. C'est vrai qu'il en a fait le tour, d'une certaine manière. Il est tiraillé, il est à la recherche d'une inspiration artistique profonde. Et finalement, en mars 1860, l'impensable arrive. Honoré est renvoyé du journal. Le journal en question, c'est le grand journal satirique Charivari. Eh bien, Honoré Daumier ne fait plus partie des équipes. À 52 ans, l'artiste respecté et pourtant plein de doutes est un véritable carrefour. En vérité, il aurait pu sans doute se renouveler. Il aurait pu s'exprimer dans une autre forme d'art, ça n'est pas la voie qu'il choisit. On entre maintenant dans une période bien sombre.
Jusqu'à 15h avec Franck Ferrand, nous parlons de Daumier jusqu'à Pierre Perret, l'histoire revisitée avec Pierre Perret qui est l'invité de Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, envoyer tous vos messages à Pierre Perret, lui poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Jusqu'à 15h, votre invité, Franck Ferrand, c'est Pierre Perret. Et aujourd'hui, grâce à vous, nous revisitons l'histoire d'Honoré Daumier qui a connu dans sa carrière une période très sombre.
Oui, là, ce sont les vaches maigres. Il n'a plus de commandes régulières. Il a du mal à se nourrir et à nourrir sa femme. Je ne vous ai pas dit que 15 ans auparavant, il s'est marié et le couple doit déménager plusieurs fois, vivre d'expédients. Évidemment que Daumier rêve toujours de peinture et de grandes peintures, mais les commandes se font rares et de plus en plus rares. À partir du moment où la République est redevenue un empire, vous savez, après le coup d'État du prince Louis-Napoléon, on entre dans le Second Empire et les républicains ne sont pas bien vus du tout. Sur un plan artistique, Daumier est confronté à un dilemme. Est-ce qu'il doit essayer de se couler dans ce qu'on attend d'un artiste à l'époque? Est-ce qu'il doit renouer avec les conventions d'une certaine manière ou au contraire creuser son sillon, aller encore plus loin dans une démarche de plus en plus audacieuse? Inutile de vous dire qu'il va choisir la deuxième solution, mais ça n'est pas celle qui paie, évidemment. Néanmoins, à partir de 1863, il y a une certaine éclaircie. D'abord, son journal, le Charivari, reprend ses commandes régulières. Au fil du temps, il va parvenir à vendre plus de peintures. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'Honoré va devenir riche, mais en tout cas, sa situation s'améliore un petit peu. Il reste un caricaturiste très admiré, même si la censure sévit plus que jamais. Il va être un de ceux qui, parmi les premiers, vont dénoncer la menace prussienne qui, à partir de Sadova en 1866, se précise constamment et que personne ne voit venir. On est dans la fête impériale, on s'amuse, on chante à Paris, on danse et on se moque pas mal de cette guerre qui, cependant, avance à grands pas. Il l'a vu avant les autres Daumier. Après la chute du Second Empire, après l'effondrement de Sedan, lui qui est toujours aussi ardemment républicain, il va accepter de participer à un certain nombre de comités d'artistes. Il reste le spectateur de son temps. Voilà ce que nous dit Bruce Lawton. Daumier demeura à Paris tout au long du siège et pendant la Commune jusqu'à la semaine sanglante où exécutions sommaires et incendies mirent fin à l'insurrection. Dans ses caricatures pour le Charivari, dessinées avec une vivacité nouvelle due sans conteste à son engagement personnel dans les événements, il suit de près cette période tragique de l'histoire de France. Mais son travail de cette époque, il faut bien le dire, est un peu un testament. C'est le chant du cygne. Honoré a vieilli. En 1872, à 64 ans, il décide de se retirer à la campagne parce que vraiment il est trop malade, que la ville ne lui convient plus du tout. Il essaie de continuer à travailler, mais tandis que les années passent, ça devient de plus en plus difficile. Et surtout, sa vue baisse. Et il n'y a rien de pire, évidemment, pour un dessinateur, pour un peintre. Il y en a eu tant d'autres. On pense toujours à Monet, mais il y en a eu d'autres, hein, de ces peintres qui peu à peu voient leur instrument de travail, si je puis dire, leur échapper. La vie de Daumier, dès lors, n'est plus que crépuscule. Il ne s'agissait pas d'une cécité complète, considère Lawton, mais d'un trouble de la vue, d'une fatigue, d'une sorte de voile intermittent qui s'obscurcissait chaque fois que sa santé s'aggravait. Et enfin, il cessa de dessiner, les médecins le lui ayant formellement interdit, car ça ne faisait qu'aggraver son état. Il atteignit ce triste état en 1878. C'est cette même année qu'est donc organisée la grande rétrospective dont je vous parlais tout à l'heure autour de son œuvre. Alors Daumier est devenu un caricaturiste célèbre. Ça ne signifie pas qu'il soit pour autant un artiste vraiment reconnu. C'est vrai qu'il a fait rire, qu'il a fait pleurer, qu'il a surtout beaucoup fait réfléchir ses contemporains, tant la caricature, tant la charge et tant l'humour sont parfois des instruments de réflexion. Mais il n'est pas véritablement reconnu par le public pour la totalité de son œuvre. Il faut dire qu'il est à contre-courant, qu'il n'est pas du tout bien vu du régime du Second Empire. Et même après, dans cette Troisième République qui commence, puisque dans les dernières années de la vie de Daumier, c'est l'installation de ce régime de la Troisième République, il n'est pas vraiment reconnu. Tout un pan de son œuvre demeure un petit peu occulté, notamment celui de la peinture, cette peinture qui l'a tant fait lutter, de croquis en ébauche, de renoncement en victoire sur lui-même. Il mourra chez lui, à Valmondois. Valmondois, c'est actuellement dans le Val d'Oise, hein, c'est un paisible village où il s'éteint en février 1879. Et ce n'est que plus tard, dans les décennies qui vont suivre sa disparition, que le talent d'Honoré Daumier sera enfin parfaitement reconnu. Toute sa vie, il aura été un observateur, un polémiste de son époque. Il aura fait l'histoire, en quelque sorte, à travers ses images puissantes, imprimées dans la mémoire. Et il aura montré qu'on peut être à la fois caustique et profond, exigeant et très accessible, généreux et corrosif. Bonjour Pierre Perret, vous dites Van Gogh n'aura pas connu de mieux, non, et tant d'autres artistes. Oui, on ne peut pas tout à fait dire que Daumier soit maudit, il est en tout cas génial, on y vient avec vous dans un instant.
Le corsaire de Pierre Perret. Pierre Perret qui est votre invité, Franck Ferrand, cet après-midi. On ne le présente plus, auteur, compositeur, chanteur populaire et auteur des grandes pointures de l'histoire parues au Cherche Midi.
Et oui, car Pierre Perret est un passionné, un féru d'histoire, il faut le dire. Vous avez toujours aimé ça, l'histoire
oui,
de France notamment.
J'ai toujours aimé ça et le petit bout de la lorgnette m'intéressait plus que l'histoire classique telle que tout le monde la connaît. Voilà,
alors,
quand même.
C'est ce petit bout de la lorgnette qui vous anime, si je puis dire. C'est par ce petit bout de la lorgnette que vous envisagez l'histoire à travers tous ces portraits. C'est une grande galerie de portraits, totalement en désordre d'ailleurs. Une vache n'y retrouverait pas ses veaux, j'allais dire. Ah oui, vous avez mélangé tous les...
Oui.
Mais c'est pas... En fait, ce sont leurs tempéraments qui vous ont amusé, plus qu'une quelconque suite chronologique. On va y venir dans un instant. Nous avons sous les yeux, Pierre Perret, un certain nombre des caricatures de Daumier dont je parlais, des lithographies extraordinaires, dont le fameux Gargantua qui représente le roi Louis-Philippe là, sur ce trône avec tout un peuple en train de nourrir l'ogre. C'est d'une force extraordinaire.
Oui, ça c'est extraordinaire. J'ai appris tout à l'heure, quand vous avez parlé de Ingres, qui voulait s'inspirer directement et était curieux du travail de Daumier. Et j'ai toujours comparé, et je ne le savais pas, j'ai toujours comparé les dessins de Ingres à ceux que faisait Daumier.
Et voilà.
Et même plus, Goya me paraît le plus proche de Daumier parce qu'il y avait une force chez Daumier qui, de temps en temps, pouvait faire penser au dessin des fusillés de Goya, par exemple, et des tas d'autres que vous connaissez.
D'ailleurs, on a là aussi sous les yeux la litho de la rue Transnonain, avec cet ouvrier qui est criblé de balles, qui est dans une pose indécente et qui a écrasé son propre enfant sous le poids de son cadavre.
Terrible,
c'est une noirceur qui peut, évidemment, évoquer Goya, là, on est.
Vous savez... La dernière fois que j'ai rencontré, que j'ai fait une émission avec ce malheureux Cabu, que tout le monde connaît, et qui est malheureusement resté à Charlie, avec
en
toutes
janvier
ses victimes,
dernier,
là, j'avais fait une émission même pas un mois avant, et je lui ai dit, tu sais, tu es Daumier aujourd'hui. Et il m'a dit, te fous pas de ma gueule. Et je le pensais sincèrement, parce que... notre Daumier d'aujourd'hui, c'était vraiment lui.
On entend votre émotion, Pierre Perret, évidemment. Vous avez revisité, si je puis dire, notre histoire. Si je vous demandais, c'était le thème d'une de mes émissions il y a des années ici sur Europe 1, ça s'appelait « Mon héros dans l'histoire ». Je demandais aux personnalités qui me faisaient l'amitié de venir nous rendre visite, quel était leur héros, leur personnage favori. Si vous deviez rencontrer un personnage de l'histoire, ce serait qui ?
Au milieu de toute la brochette de ceux que j'ai peints avec grande dérision, vous en êtes aperçu, je pense que Henri IV serait l'un d'eux, sinon mon préféré. Voilà.
Il faut dire que par les temps qui courent, Henri IV pourrait nous servir de modèle d'une certaine manière. Il est à la fois l'homme de la fermeté et de la conciliation, les deux.
Oui. Ça a été pour moi un des plus grands personnages de l'histoire parce que, justement, certes, il a dû emprunter des chemins parfois bien tortueux.
Très tortueux.
Mais il est arrivé quand même, malgré la fin tragique que tout le monde connaît, jusque-là, le parcours était quand même à saluer bien bas.
Je réalisais l'autre jour, dans une émission que nous faisions avec Alexandre Gady sur le Louvre et les Tuileries, oui, à quel point Henri IV a été un très grand constructeur. Et comme le disait Alexandre Gady, s'il avait pu vivre ne serait-ce que 15 ans de plus, il serait aujourd'hui tout à fait au sommet du panthéon des grands bâtisseurs de l'histoire. On ne lui a pas laissé le temps, si je puis dire.
Autant que Louis XIV, certainement, alors, et même plus.
C'était un grand bâtisseur, mais oui, ça n'était pas le principal de ses mérites, ni le plus visible. Évidemment, ce qui doit vous plaire aussi chez Henri IV, c'est le côté vert galant. Je vous cite d'ailleurs Pierre Perret dans les grandes pointures de l'histoire. Infatigable sur l'oreiller, Riton, toujours insatisfait, y faisait se succéder des maîtresses plus volcaniques les unes que les autres, écrivez-vous. Toutes adoraient l'osier et les colifichets qui mettaient le pays dans la mouscaille. La dernière en date fut Charlotte des Essarts, dite Lolotte les doigts fins, pour qui le bon Riquet faisait les pires des folies, ce qui avait le don de foutre la reine en pétard et le pays y tout. Le 14 mai 1610, ajoutez-vous, eh oui, un obscur petit greffier de tribunal allait devenir célèbre à tout jamais. Il amplifia du coup considérablement la gloire de celui qu'il allait assassiner. Il s'appelait François Ravaillac, avait un laïol bien aiguisé et poignarda allègrement le bon roi Henri qui, pour son malheur, n'avait lui que de mauvais chirurgiens et pas encore d'antibiotiques dans son armoire à pharmacie. On voit le ton, hein, le ton est donné.
Je crois que vous avez tout compris.
Je pense qu'on aura compris pourquoi j'ai cité Daumier dans la première partie de cette émission, parce que votre ouvrage se veut volontairement humoristique et caricatural. Tout est dans la façon de raconter les choses, en fait.
Je crois que le dénominateur commun, c'est la dérision.
Mais voilà.
Et c'est ce que j'ai voulu faire complètement. C'est pour ça que j'ai pas mis dans l'ordre les personnages historiques, parce que je ne voulais pas montrer que je me prenais pour un historien.
Oh ben, pas dans l'ordre, ça dépend. Messaline, Louis XIV, Marie de Médicis, Brunehaut, Ramsès II, Vercingétorix, Isabeau de Bavière, Louis IX, Hannibal, Philippe le Bel, Catherine de Russie, Dagobert, Jules César. Oh, il y a des petites erreurs de chronologie, mais
la
pas tant que ça.
Clotilde, la petite Clotilde aussi.
Eh oui, la petite Clotilde.
Elle qui est très importante.
Qui a joué un rôle essentiel, parce qu'elle est un petit peu celle qui a baptisé la France, si je puis dire, puisqu'elle a converti son rue d'époux Clovis au christianisme.
C'est un des plus gros boulots qui a été fait. C'est fantastique ce qu'elle a fait, c'est vrai.
Est-ce qu'elle l'a fait en conscience après? C'est la question qui se pose. On peut toujours se demander si, au moment où il réalisait les extraordinaires exploits dont nous leur savons gré aujourd'hui, les grands personnages de l'histoire avaient la pleine conscience.
Ne prenons pas toutes les femmes pour des inconscientes.
Non, mais ce n'était pas mon intention.
Non,
alors, nous allons venir justement à quelques femmes un peu fortes. Vous avez parlé de Clotilde, mais nous on va parler de Brunehaut, de Frédégonde et de quelques mérovingiennes dans la foulée.
La philosophe de Pierre Perret sur Europe 1. Pierre Perret qui est votre invité, Franck, auteur, compositeur et chanteur, mais aussi auteur des grandes pointures de l'histoire parues au Cherche Midi il y a quelques jours. Pierre Perret qui parle d'histoire aussi à sa façon.
Ah oui, exactement. Et à chaque chapitre, vous avez un dessin qui illustre le personnage. Alors, tous les dessins sont plus magnifiques les uns que les autres. C'est vrai qu'on parlait de celui de Catherine de Russie, où l'on voit la grande Catherine avec une robe à crinoline. Vous savez, et de la robe, du bas de la robe, dépasse beaucoup, beaucoup de chaussures d'hommes, vous voyez. Il y a du monde sous cette robe-là. Et puis, alors, moi, mon préféré, de loin, je trouve ce dessin absolument génial. On voit, c'est Jeanne d'Arc. Et on voit Jeanne d'Arc qui tend l'oreille. Elle est en train de garder ses moutons. Vous savez, elle tend l'oreille pour. Elle entend ses voix, visiblement. Il y a deux moutons à ses pieds. Il y a un mouton qui a l'air complètement halluciné et l'autre lui dit discrètement : te mêle pas de ça, broute, broute. C'est assez magnifique. Alors, et Messaline, oui, vous disiez, Pierre Perret. Hein.
Ben, Messaline, vous savez quand même que c'était.
L'empoisonneuse.
Oui, mais il y avait certains personnages qu'elle, au lieu de les empoisonner, elle rentrait directement dans leur vie active tout de suite, quoi. Alors, je dis à un moment donné, Messaline était énervée du cul, pas possible. C'est qu'aussi sa nature généreuse profonde lui dictait d'offrir le plus souvent possible son accueillante touffe à tous les maris malheureux en ménage, à tous les amants déçus de leur maîtresse, à tous les genoux qui avaient encore sabré que des vieilles, à tous les centurions qui revenaient de guerre avec les roustimbales pleines à ras-bord, à tous les bergers qui n'avaient que leurs brebis, sans compter tous les autres qui rêvaient de son millefeuille tous les soirs en enjambant leurs bergères.
Je signale que nous sommes bien en direct à 14h43 sur Europe.
Pardon, vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie.
C'est ça. Après tout, je l'ai voulu. Hein. Ça, c'est moi qui l'avais demandé. Alors, on voulait parler des mérovingiennes, là, de ces deux épouvantables harpies, en tout cas telles que vous les dépeignez. C'est Brunehaut et Frédégonde.
Dans mon histoire, ouais. Brunehaut et Frédégonde.
Elles étaient, alors, elles se livrent une sorte de guerre interminable. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont les pires ennemies l'une pour l'autre?
Parce que toute la vie, elles l'ont passé à se filer des peaux de banane terribles.
Oui, c'est incroyable.
Mais à vouloir trucider, empoisonner, etc., etc.
Il y a quelque chose de tragique d'ailleurs, hein, dans cette histoire de ces deux femmes. Vous êtes en train de nous chercher un petit extrait à mettre entre toutes les mains, bien entendu, toutes les oreilles.
La môme Brunehaut était de loin la plus lobée du quartier. C'est Chilpéric lui-même qui avait tricoté son lardon, aujourd'hui son rival, à l'infortuné Audevert. Dans l'urgence, Mérové, quittant Paris, avait fait du stop jusqu'à Rouen afin d'oser enfin déclarer sa flamme à la belle Brunehaut. Le voyant devant elle danser d'un pied sur l'autre, elle lui dit tout de go « Que voulez-vous exactement, jeune homme ? Madame, je crois que je bande pour vous. » Effectivement, dit la reine, n'en doutez plus, c'est visible à l'œil nu. Ne tremblez donc pas ainsi, mais vous me semblez cependant bien impétueux. C'est que, madame, je pourrais vous parler chastement dans mes bras, vous porter chastement dans mes bras jusqu'à l'autre bout du monde. Eh bien, soyez gentil, portez-moi pour commencer sur ma couche, c'est moins loin, et ne soyez pas trop chaste tout de même.
On a l'impression que vous y étiez.
Non, mais je me suis bien amusé quand même à tricoter toutes ces histoires, à les déformer bien consciencieusement.
En fait, les histoires, elles y sont toutes.
L'histoire n'est pas déformée.
Ah, c'est
vous
ça. Voilà. Non, mais l'histoire est là. Mais alors ensuite, vous avez beaucoup brodé. Voilà, vous êtes un brodeur, Pierre Perret.
Je ne savais pas jusque là que je connaissais la broderie.
Non, mais il y a cette broderie. Alors là, évidemment, sur des scènes de lit, sur des scènes très très lestes. Il n'y a pas que ça dans le livre, il faut dire quand même, vous abordez tous les aspects des personnages.
Je crois que ce que j'ai retenu dans tout le parcours de tous ces personnages, c'est que ce qui a mené le monde depuis la nuit des temps, ce sont les femmes et les religions, malheureusement, parce que...
L'amour
et la religion, ouais. Puisque toutes les guerres ont été faites les trois quarts du temps à cause des religions.
Si vous ajoutiez l'avidité, vous auriez les trois grands ingrédients de l'histoire. Vous savez, nous ne faisons que ça, nous, tous les jours.
Les guerres ne découlent que de l'avidité, de conquête de territoire, etc. Vous
êtes
d'accord ?
Bien sûr, oui.
Mais elles sont suscitées les trois quarts du temps. Ça a été quoi ? Les croisades, Isabelle la catholique, Godefroy de Bouillon, enfin tout le monde partait pourquoi ? Pour la conquête des territoires, évidemment. Et ça a toujours été ça. Et très souvent, le moteur de ça, c'était la femme. Au départ, c'était la femme. Regardez, on parlait à l'instant de Clovis. Oui. Clovis a changé tout un peuple et Henri IV
et toute une histoire,
qui a fait aussi son mea culpa. Catholique, je redeviens protestant, ou j'étais protestant, et je vais revenir catholique si ça vous fait plaisir. Voilà.
On parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure, je décrivais ce dessin de loup particulièrement inspiré.
Tous ces dessins sont magnifiques.
Vous nous donnez sur Jeanne d'Arc une version un peu particulière pour ce qu'est sa fin.
Oui. Alors je suis parti de documents que j'ai lus, qui ont existé, qui étaient à la Nationale, qui sont à la Nationale d'ailleurs.
La Bibliothèque nationale, en France,
la Bibliothèque nationale. Et j'ai enfilé cette chaussette-là parce que ça m'amusait de voir qu'il pouvait y avoir une autre version et que peut-être, pourquoi pas, On ne sait pas. On a substitué Jeanne d'Arc au dernier moment, qu'on a mise à brûler sur le bûcher, mais ce qui est avancé là, c'est que c'était pas elle, voilà. Mmh. Et ça aurait été très possible.
Il y a eu un grand succès il y a 5 ans sur ce sujet, hein, précisément,
ah bon,
sur la,
ah
sur ben les doutes entourant l'exécution de Jeanne d'Arc en mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen.
À Rouen, oui.
On vous voit sous toutes les, comment dirais-je, sous tous les aspects sur la couverture de ce livre, Pierre Perret. Il y a 9 portraits qui représentent Henri IV, Louis XV, le premier consul Bonaparte, Richelieu, Louis XVI, etc., etc., jusqu'à César Borgia. Et ils ont tous un point commun, ces portraits. Il faut que vous nous les décriviez parce que nous sommes à la radio. Ce point commun, c'est que c'est vous, en fait.
C'est ma tête. C'est une photomontage qui met, on dirait que c'est réellement une photo parce que c'est fait de façon très artistique. Et j'avoue que chapeau au monsieur qui l'a fait, voilà.
Alors, on sait bien sûr votre goût pour la cuisine, on sait votre incroyable connaissance de l'argot, ça c'est tout à fait inouï, et il y en a quelques beaux échantillons dans ce livre. On connaît peut-être un peu moins votre passion pour l'histoire. Vous lisez beaucoup de livres d'histoire, vous êtes plongé là-dedans?
Oui, depuis tout le temps. J'ai de très vieux livres d'histoire qui
ce
datent
sont souvent
de,
les meilleurs entre nous.
De 2 ou 3 siècles. Et je les lis dans leur version originale et souvent c'est là que je vois les différences avec les différentes versions que j'ai pu lire depuis. C'est vrai que l'histoire est très fluctuante en fonction des auteurs.
Pierre Perret, Les grandes pointures de l'histoire, c'est au Cherche Midi. C'est la réédition très augmentée d'un ouvrage qui était paru il y a déjà quelques années, hein, Pierre Perret.
Alors, il y a 12 ou 13 ans, voilà, c'était paru. Et là, j'ai tout repassé au peigne fin et j'ai ajouté
et
justement Bruno,
voilà.
Clotilde, etc.
Merci d'être venu nous parler de ces grandes pointures de l'histoire.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli. On a passé un bon moment amusant.
Et dans un instant, Franck Ferrand vous répondra à la question de Cyrielle qu'elle vous pose sur la page Facebook de l'émission. Elle voudrait en savoir plus sur les origines du Beaujolais nouveau.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous allez répondre à une question de Cyrielle qu'elle vous pose sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Elle voudrait en savoir plus sur les origines et l'appellation du Beaujolais nouveau.
Ah oui, c'est de saison. C'était hier.
C'était hier, c'est ça,
Beaujolais
exactement.
Nouveau. Évidemment, tout ça est un petit peu bousculé en ce moment.
Bien sûr, par l'actualité.
Les événements. Le Beaujolais, ça, je parle sous le contrôle de Pierre Perret, qui connaît tout ça bien mieux que moi, à vrai dire.
C'est une. Il faut mesurer ses mots parce que Pivot nous écoute peut-être.
Aussi,
et alors
aussi.
Là,
alors là,
si
là faisons très attention.
Ça tout de suite.
La région viticole en question se situe dans les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire, bien entendu. Culture viticole assez récente, il faut le dire, si on la compare en tout cas à un certain nombre de grands vignobles français. Au XVIe siècle, les vignes y sont encore rares, elles vont se développer au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. On cultive là un vin rouge, un cépage rouge, issu de 99% de gamay noir. Ce gamay noir est particulièrement adapté aux vins primeurs. Les vins primeurs, ce sont des vins que l'on ne fait pas macérer longtemps et qui ont moins de 2 mois de macération. Bref, on les met en vente très peu de temps après la récolte. Alors, il y a 12 appellations d'origine contrôlée dans cette région et 2 sur 12 peuvent donc être commercialisées en primeur, vendues tout de suite après. C'est le Beaujolais et le Beaujolais Village. Il faut savoir que cette production de vin primeur n'est pas du tout nouvelle. Les premiers vignerons du Moyen-Orient consommaient leur vin extrêmement jeune. C'était pour des raisons pratiques à l'époque. Il n'existait pas encore de moyens de conservation. Pour ce qui est du Beaujolais, ce n'est pas du tout pour des raisons pratiques. C'est pour obtenir des vins prêts à la consommation le plus rapidement possible, pour des raisons de coût notamment. Ça évite tous les frais de conservation, de stockage, etc. Toute cette longue vinification qui, évidemment, est une des raisons pour lesquelles les prix de certains vins peuvent monter très haut. Un vin primeur doit obligatoirement disposer de l'appellation d'origine contrôlée. Je le précise parce que, évidemment, il y a beaucoup de candidats à cette vente annuelle. 1951, c'est la fin du principe d'échelonnement des sorties de vin. Avant ça, un calendrier fixait les dates de commercialisation qui permettait de planifier, de réguler l'approvisionnement. Eh bien, le 8 septembre 1951, un arrêté stipule que la date de sortie peut être avancée si le vignoble dispose de la fameuse AOC, de l'appellation d'origine contrôlée. L'Union viticole beaujolaise demande à pouvoir vendre ses vins en primeur. Elle reçoit donc cette autorisation par un décret du 15 décembre 51. La date va évoluer jusqu'à ce qu'on se mette d'accord en 1985 sur le troisième jeudi du mois de novembre. Donc c'était hier, ce troisième jeudi du mois de novembre. Le succès n'a pas été immédiat. Hein. En 1960, personne ne savait ce que c'était que ce Beaujolais nouveau. En 70, c'est quand même 100 000 hectolitres qui sont vendus. Au tournant des années 2000, presque 1 500 000 hectolitres. Un succès qu'on doit certainement à l'événement qui a été créé autour de ce jeune vin. Donc en 75, la sortie du Beaujolais nouveau est devenue un véritable rendez-vous. À l'époque, les deux parrains, on pourrait dire, étaient Bernard Pivot et Pierre Perret, mais non, en l'occurrence, c'était Georges Brassens et Mireille Mathieu, les deux parrains du premier Beaujolais nouveau. J'ai deux annonces à vous faire. D'abord, je voulais vous signaler, puisqu'on est dans les grands rendez-vous du mois de novembre, que ce week-end a lieu à Versailles la 8e édition d'Histoire de Lire. Tous les passionnés d'histoire de la région parisienne connaissent bien sûr ce rendez-vous. C'est à l'hôtel de ville et à l'hôtel du département à Versailles, avec 150 auteurs attendus, un espace entier consacré à la BD historique, une prestation particulière de Laurent Deutsch, ça s'appelle Ça vaut Versailles, un espace pour le café des auteurs, toutes sortes de débats, je crois qu'il y a 15 ou 16 débats de prévus, enfin tout ça va être assez nourri pendant tout le week-end et c'est à Versailles. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sommeil. Avec tout ce qui vient de se passer, on est tous un peu à cran. On dort mal. Pourquoi? Comment? On y répond avec un grand spécialiste de la question, le docteur François Dufauret, fondateur du Centre européen du sommeil.
Merci beaucoup Marion. Eh bien, nous nous retrouvons lundi, chère Anissa, et dès demain, puisque nous parlerons de Conan Doyle dans les grands portraits.
À partir de 14h. Merci beaucoup. C'était Franck Ferrand sur Europe 1.